Bonjour Bernard.
Alors, comme à chaque mercredi, on fait notre petit tour d'horizon. Aujourd'hui, tu vas nous parler de Google.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe chez Google?
Ben, en fait, ils ont fait deux grandes annonces. La première concernant les cookies. Hein? Quand je dis parle de cookies, on s'entend que je ne parle pas du ce fantastique biscuit que l'on peut déguster, mais bien du témoin de. Il y a eu beaucoup de caricatures qui ont été faites sur le web là-dessus là, pour illustrer des gens qui comprenaient moins bien le web. Là. Entre autres, quand il y a eu le Congrès américain qui a passé Mark Zuckerberg à la questionnette, il y avait des blagues où on illustrait des politiciens qui demandaient si les cookies étaient au gruau. Eh bien là, je parle plutôt des témoins de connexion. Qu'est-ce que c'est, grosso modo, là, les cookies? C'est ces petits fichiers textes, OK, qui circulent entre une adresse IP d'un utilisateur et un site web. Quand vous consultez un site web, Bernard, là, ben il y a de l'information qui circule entre vous et le site web pour plein de raisons. Et là, Google vient d'annoncer qu'ils allaient les rendre obsolètes d'ici 2 ans de la part des sites privés. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est?
Oui.
Disons qu'il y a différentes formes de cookies,
Mettons les plus fréquents, là, pour que l'auditeur qui nous écoute, là, nous comprenne, là. Un cookie, là, mettons, on est tous sur Internet à un moment ou à un autre de la journée, là. Ça ressemble à quoi, là?
Bon, voici. Concrètement, déjà pour vous donner une image mentale, là, disons, le cookie, là, ça vient du mot, ça vient du concept de token, là, comme quand on veut reprendre son manteau au vestiaire, là, la petite rondelle de plastique.
Oui.
Ben, on peut s'imaginer que c'est ça, le cookie. Et sur cette rondelle de plastique, ben, il n'y a pas seulement où se retrouve votre manteau pour l'associer à l'utilisateur, mais plein d'autres informations. La date où vous allez sur un site web, de où vous y allez, combien de fois vous y allez, etc. Puis ça peut permettre des choses indispensables. Exemple, quand vous allez faire des achats en ligne, vous avez un panier d'achat qui vous est associé. C'est impossible
oui.
d'avoir un panier d'achat qui est relié à votre identité s'il n'y a pas un cookie qui fait le lien entre vous et le site web. Vous ne pouvez pas faire de transaction non plus. Fait que ça, c'est un peu les indispensables.
OK, et donc il n'est pas présent à l'écran, le cookie. Là. On ne le voit pas. Là. Il n'y a pas une image visuelle là, reliée au cookie. Là.
Si vous allez sur des sites européens, à cause de la loi du RGPD, là, qui est la loi générale sur les données, on oblige les sites de vous avertir qu'il y a des cookies qui sont échangés entre vous et le site web. Sauf que c'est pas le cas ici. Des fois, il y a des entreprises qui décident de le faire par souci de transparence. Alors, c'est le petit pop-up là, qu'on va voir qui apparaît, qui nous dit « Hey, il y a des cookies, on collecte des données, on a
acceptez-vous.
Des informations sur votre… » Acceptez-vous
oui,
ou
oui,
pas.
Oui. Mais si on n'accepte pas, on peut pas utiliser le site.
On ne peut pas utiliser certaines fonctionnalités, pas nécessairement tout le site, mais certains sites, certaines fonctionnalités. Il y a aussi des cookies qui servent à faire de l'analyse, Bernard. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'un site web, vous voulez savoir vos utilisateurs, qu'est-ce qu'ils lisent le plus, qu'est-ce qu'ils font le plus pour améliorer votre site web. Fait que ça peut être un outil d'amélioration. Il y a aussi les fameux cookies de marketing qui permettent justement de vous cibler avec de la publicité en fonction de qui vous êtes, n'est-ce pas, de la part du site web. Fait que ça, c'est les sites gratuits ou même les sites de médias qui utilisent ça, qui vont permettre, entre autres, quand vous lisez un article, là, vous allez voir des publicités en fonction de qui vous êtes, là, qui ont rapport avec vos champs d'intérêt. Bien, ça, c'est des cookies qui permettent de faire ça. Mais le grand...
Ce que Equifax, là, je fais une petite parenthèse, Nelly, là.
Oui.
Equifax avait sur son site, comment ça s'appelait? C'est un truc pisteur, là, puis ils ont décidé finalement...
Il y a des pixels d'espionnage. Ça, c'est un autre...
C'est une autre affaire, ça, là.
C'est, un cookie amélioré, on va dire, en quelque sorte. Mais ce qui est le plus... il y a deux choses, disons, qui peuvent être préoccupantes là-dedans. Bien, il y a les tiers. Tu sais, vous allez entendre parler de cookies tiers, là, puis la plupart des gens se disent, c'est quoi cette affaire-là? Bien, ce que c'est, ça, c'est que si vous faites affaire sur un site privé, par exemple, vous allez sur le site d'un média, vous venez sur le site de Cogeco, là. Bon, bien, vous faites confiance à Cogeco, puis peu importe si elle a installé des sites, vous pouvez vous dire, moi, je suis très à l'aise avec le fait que Cogeco me vende de la publicité parce que c'est un de ses outils pour survivre financièrement. Parce qu'il y a ça aussi là, qui rentre en ligne de compte. Où vous êtes à l'aise avec le fait qu'on vous analyse pour qu'on puisse peaufiner davantage l'information qui vous est destinée. Par exemple, on veut que nos préférences nous suivent sur le site et qu'on nous propose des choses qui sont plus en fonction de nos intérêts. Par contre, si le site, là je vais sortir du média, mais je vais aller maintenant vers un site de vente en ligne. Le site de vente en ligne, il n'a pas les moyens de se créer sa propre boutique en ligne. Il va faire affaire avec une entreprise. Mettons, on va dire Shopify.
Oui.
Ben, Shopify, il va lui offrir l'outil pour acheter en ligne, mais ça devient un tiers parce qu'il a accès à vos cookies. Si vous ajoutez un like Facebook automatique, ben Facebook devient un tiers qui a accès aux cookies. Donc, les sites sur lesquels vous allez, ben, vous pouvez vous retrouver à donner les informations de vos cookies à toutes sortes de tiers comme ça dont vous n'avez pas vraiment connaissance. Et c'est là que ça peut devenir un petit peu plus douteux là, mais, au niveau de justement la protection de votre vie privée.
Mais attends un petit peu, là. Tu dis quand tu likes un statut Facebook, tu interagis avec un cookie, c'est ça que tu nous dis?
Non, c'est que si je le fais sur un site web qui est privé. Vous savez, des fois, on peut aller sur un site web et liker, même sur un site web de médias, dire, OK, sur votre site web, je vous aime, sans aller dans Facebook.
Oui.
Mais ça, c'est un petit truc qui a été installé via un code qui provient de Facebook et qui donne souvent accès, donc, à ce tiers qui est Facebook, donc qui est comme une espèce de partenaire du site privé. Ça lui donne accès à vos cookies. Donc,
et en nous donnant accès à nos cookies, ça lui donne accès à quoi, au juste? Ça lui donne accès à l'achat auquel je voulais procéder.
Exactement. Oui. Ça peut lui donner cette information-là. Puis ça dépend de l'information qui est récoltée sur chacun des cookies, mais c'est souvent de votre adresse IP, donc qui vous êtes, votre identité, à quel moment vous allez sur le site, combien de fois vous y allez, qu'est-ce que vous faites sur ce site-là exactement. Donc, c'est beaucoup d'informations et ce sont, dans le fond, en partie, les cookies qui donnent l'information à des entreprises comme Facebook pour vous profiler, en fait. Et non seulement, il y a des cookies, mais aussi les pixels. Ça, c'est des espions. Ça, c'est des petits codes qu'on ajoute qui vont chercher encore plus d'informations que les cookies, là.
Donc, OK. Google, on dit, on se donne 2 ans, puis on va éliminer les cookies. Mais ce faisant, ils vont se priver de revenus importants, non? Quel est leur intérêt à faire ça?
Non, eh bien, justement, c'est une très bonne question, Bernard, parce que en fait, c'est pas exactement... Ce qu'il dit, c'est on va rendre obsolètes les cookies de sites privés d'ici 2 ans, mais pas ceux de notre navigateur à nous, premièrement. Donc déjà, on sait qu'il y a un conflit d'intérêt ici, parce que ça leur permet d'être compétitifs, parce qu'ils enlèvent, disons, ce qui nourrit Facebook et plein d'autres compétiteurs, mais probablement plus Facebook que les autres. On s'entend, là, parce que c'est une lutte de titans. Non seulement ça, mais ils ont annoncé qu'ils travaillaient activement à permettre aux développeurs et aux auditeurs de tester des nouvelles techniques pour pouvoir aller chercher des revenus. Parce que là, il y a deux côtés là-dedans. Il y a ceux qui veulent protéger leur vie privée. Hein, ça peut être des gens qui disent « Moi, j'ai pas envie que des entreprises se servent de mes données », ce qui est très légitime.
Oui.
Mais d'un autre côté, il y a tous les médias qui vivent de ça. Tous les médias gratuits, les sites de blog ou quoi que ce soit, votre média d'information préféré qui, lui, ben, qui se fait déjà voler beaucoup de revenus de la part de Facebook. Ben, pas voler, mais disons que les gens préfèrent aller faire des placements publicitaires avec Facebook ou Google même. Alors là, ils ne pourront plus faire de placements sur leur site parce qu'ils ont besoin des cookies pour le faire. D'ailleurs, il y a le Journal de Montréal, le Journal de Québec, hein, qui dernièrement envoie un petit pop-up qui vous dit « Hey, on a remarqué que vous avez bloqué nos publicités quand vous faites affaire avec un bloqueur de publicité. » Là, et qui vous demandent de le réactiver parce que ça leur permet de survivre et qui vous coupent des accès même. Parce que souvent, quand les médias vous donnent accès à 10 articles gratuits avant un abonnement obligatoire ou carrément de la gratuité totale, bien, leur source de revenus, c'est de vous exposer à de la publicité. Mais si vous enlevez les cookies et tout ce qui rend possible ce ciblage publicitaire-là, bien, ils perdent un revenu. Alors, c'est pour ça que Google dit bien, on va quand même permettre aux éditeurs de développer quelque chose. Mais là, il y a les militants qui vont dire « OK, mais est-ce qu'on va développer quelque chose d'encore plus insidieux? » Parce que ça reste qu'on va quand même vouloir continuer à nous espionner. Là.
Mais moi, c'est ça qui me fatigue. Moi, je vais te dire franchement que quelqu'un me dise, qu'un site, peu importe, me dise, « Garde, quand tu es sur ce site-là, oui, il y a des cookies, mais c'est le moyen pour nous de te donner gratuitement accès au site. Mettons un site d'information. » À ce moment-là, je vais répondre oui, parce que je veux, moi, que ce site d'information-là continue, que ce média-là continue à vivre. Le problème, c'est qu'il ne me donne pas le choix, Nelly. Tu comprends?
Exact.
Ça se fait derrière mon dos, ça se fait à mon insu. Puis c'est ça qui me fatigue. Donne-moi le choix, puis regarde, je suis assez intelligent pour prendre ma décision.
Mais vous savez que vous pouvez déjà aller configurer vos navigateurs à ce sujet. Vous pouvez aller, vous avez simplement à googler là, tutoriel, navigateur, cookie, votre navigateur si vous avez Chrome, Firefox, Safari, vous allez pouvoir justement désactiver ces cookies-là. Fait que ça, c'est déjà possible de le faire.
Ah.
Vous pouvez aussi, oui, voilà.
Je savais pas ça.
Eh oui, puis d'ailleurs, vous pouvez réfléchir à votre choix de navigateur, hein? Parce qu'en 2019, c'est évidemment Chrome, donc le navigateur de Google, qui a 60% des parts de marché, qui est numéro un. Puis après ça, ben on parle de Safari sur iPhone. Donc, étrangement, c'est souvent les navigateurs qui viennent par défaut, hein? Parce qu'on c'est ce qu'on vous propose par défaut avec Google ou avec votre téléphone. Ensuite, c'est comme le reste est distribué à travers des plus petits joueurs. Le quatrième en liste, c'est Firefox avec seulement 3,5% des parts de marché. Sauf que Firefox, c'est un OBNL, c'est un organisme à but non lucratif, OK, qui fonctionne avec du open source, qui promet de protéger vos droits, de limiter les collectes de données et de lutter. Puis d'ailleurs, c'est un organisme qui fait la lutte pour la vie privée.
Et tu es en train de nous dire qu'on devrait utiliser Firefox comme moteur de navigation, dis-je?
Moi, ce que je pense, c'est que ça dépend évidemment de ce que vous recherchez auprès d'un navigateur. Si la vie privée vous préoccupe, ben oui, allez voir du côté de Firefox.
Mais y est-il aussi efficace que Safari? Moi, j'utilise Safari parce que c'est celui qui est effectivement sur iPhone.
Ça dépend évidemment de ce que vous faites. Il y a des plus et des moins pour chacun des navigateurs. Vous pouvez aller regarder ça. Firefox est assez performant. Honnêtement, moi, je m'en sers en général parce que je trouve qu'il y a plein d'avantages avec ce site-là, dont justement la limite de collecte de données, et puis parce que j'encourage un OBNL en même temps. Mmh. Et parce que Chrome, là, c'est à Google. C'est un des quatre géants du web et ils font des profits avec vous. Donc, je me dis, je sais pas, là, je préfère aller avec une entreprise dont je ne suis pas une source de profit à la base. Puis d'ailleurs, je pense que j'en ai déjà parlé là, à votre émission de ce projet-là, là. Mais si la collecte de données est quelque chose qui vous mystifie puis que vous voulez comprendre un peu plus, il y a un site qui s'appelle Data Detox. Vous avez juste à taper Data Detox dans Google. Et c'est un projet de Mozilla, qui est la compagnie derrière Firefox, et qui vous explique comment ça fonctionne. Et vous allez comprendre davantage justement toute la mécanique derrière les cookies, les pixels, comment qu'on collecte vos données, comment les grands géants du web s'en servent, etc. Évidemment qu'ils font la promotion de Firefox parce que c'est Mozilla, c'est le même groupe, et que c'est un groupe de militants, en quelque sorte, des droits des personnes sur Internet.
Data Detox, donc Data, D-A-T-A, Detox comme Detox, D-E-T-O-X.
Pour vous désintoxiquer de votre collecte de données non voulues, en fait, ou inconscientes.
Mais on le trouve sur Google, c'est quand même ironique, non? Tu vas sur Google pour trouver, dans le fond, Data Detox, qui est le concurrent... qui fait la promotion de Firefox, qui est le concurrent de Google. On s'entend, on n'est pas du tout dans la même taille. Dans le fond, c'est David contre Goliath, là.
Puis d'ailleurs, vous savez, l'agence BSI, l'agence allemande de sécurité Internet, a, en 2019, a nommé Firefox comme étant le navigateur le plus sécuritaire.
Est-ce qu'il est le plus fiable? Est-ce qu'il est le plus efficace en terminant?
Ça, je ne sais pas s'il est le plus efficace. Comme je vous dis, personnellement, je fais un usage assez extrême de l'Internet en général et ça fonctionne très bien. Mm. Donc, moi, je vous le recommande chaudement. Okay. Mais comme je vous dis, ça dépend toujours là, de ce que vous faites dans la vie avec tout ça. Puis, ben, c'est sûr qu'il y a aussi l'aspect qui est open source. Donc, c'est-à-dire qu'on vous donne le code. Donc, pour les développeurs, c'est intéressant parce qu'on peut contribuer collectivement à développer des fonctionnalités. C'est moins opaque, là, leur façon de fonctionner.
Bon, là, on a dépensé notre temps, mais mettons que tu essayes Firefox, tu es avec Safari, mettons, là, tu t'en vas sur Firefox puis tu n'es pas satisfait. Est-ce que c'est facile de retourner à un autre, de changer de moteur de navigation?
Oui, vous pouvez même en utiliser plusieurs. Moi, j'ai souvent Firefox. J'en utilise plusieurs pour toutes sortes de raisons là, qui me permettent d'ouvrir sur une même plateforme plusieurs comptes, par exemple, et de me promener de l'un à l'autre plus facilement. Okay. Donc oui, c'est très facile. Puis vous n'êtes pas obligé d'enlever l'ancien. Donc, d'accord, vous pouvez toujours réactiver l'ancien. Donc, ça vous donne une cure de plus. Vous pouvez l'essayer sans quitter votre ancien navigateur. Donc, la transition est facile.
Très bien, Nelly Brière. C'était très clair. Merci.
Oui, bon cookie.
À la semaine prochaine. On s'arrête au retour. Vivre dans une secte, mais surtout, s'en sortir.